Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Quelle importance accordez-vous à la vérité? Est-elle précieuse pour vous? Les personnes qui fréquentent une église pensent que celle-ci enseigne la vérité parce qu'elle affirme être chrétienne, parce qu'elle parle du Christ et cite certains passages de la Bible. Mais qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que la vérité? Comment devenir un véritable disciple du Christ? Si vous vous considérez chrétien, savez-vous ce que vous devez faire? Examinons ce que nous en dit l'apôtre Jean. Il a survécu à tous les apôtres et a écrit les derniers livres composant la Bible. Quels conseils nous a-t-il laissés? Nous pourrions aussi nous tourner vers les écrits de Moïse, car les 5 premiers livres de l'Ancien Testament nous permettent de mieux comprendre les écrits des apôtres qui, ne l'oublions pas, n'avaient que les écrits de l'Ancien Testament à leur disposition. Nous découvrons alors pourquoi Jean et Paul ont affirmé ce que nous trouvons dans leurs écrits. La Bible a été rédigée par divers auteurs sous l'inspiration divine. Les contributions de ces auteurs inspirés s'échelonnent sur une longue période qui débute au XVe siècle avant notre ère, pour se terminer à la fin du premier siècle de l'ère actuelle. Ces textes sont tellement vieux qu'il nous est parfois difficile d'imaginer l'époque au cours de laquelle ils furent écrits. L'apôtre Jean est le plus proche de nous, chronologiquement, tandis que Moïse est le plus éloigné, tellement éloigné qu'il peut ne pas nous sembler réel. L'apôtre Jean, lui, était très attaché à la vérité. Il avait ce qu'on appelle l'amour de la vérité, un amour profond pour l'unique vérité. Voyons ce qu'il écrit à Gaius. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Jean a donc appris par d'autres frères que Gaius marchait dans la vérité. Il est évident que ceux qui firent un tel rapport à l'apôtre Jean savaient ce qu'est la vérité et reconnaissaient que Gaius la vivait, la mettait en pratique. Jean pourrait-il en dire autant aujourd'hui des millions de chrétiens de par le monde? Se soucie-t-il vraiment de la vérité? Et vous, qui m'écoutez ce matin, cherchez-vous à connaître la seule vérité et à la mettre en pratique, ou bien n'a-t-elle pas vraiment d'importance pour vous? En d'autres termes, avez-vous l'amour de la vérité? Marcher dans la vérité n'est pas un mode de vie vague, imprécis. Non, c'est un mode de vie détaillé avec précision dans la Bible, qui concerne chaque pas que l'on fait. Nos pas, nos décisions, nos pensées, nos émotions doivent être conformes à la vérité. C'est un mode de vie qui finit par devenir une habitude. Il s'intègre dans la mémoire, dans le caractère. C'est ainsi qu'on en arrive à marcher dans cette grande vérité. Le Christ a déclaré à son Père, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Être sanctifié, c'est être mis à part, être différent. Seule la vérité et sa mise en pratique différencient le vrai chrétien du faux. C'est cela qui fait la différence entre celui qui croit l'être, mais qui ne l'est pas, et celui qui est un véritable disciple du Christ. La parole est cette collection de livres divinement inspirés depuis l'époque de Moïse jusqu'à celle de Jean. Elle comporte ces 66 livres contenus dans la Bible, pas un de plus, pas un de moins. Voilà où se trouve la vérité que tout chrétien doit mettre en pratique dans sa vie. Il s'agit de principes fondamentaux, cités et expliqués dans la Bible, nécessaire à l'édification du caractère du chrétien. L'apôtre Jean poursuit. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Jean parle de marcher dans la vérité. C'est une expression intéressante qui exprime bien qu'il ne s'agit pas d'une étude intellectuelle, mais de mettre en pratique les vérités au fur et à mesure de leur découverte. Pour accomplir une tâche, nous devons marcher, avancer. Tous nos projets ont un point de départ à partir duquel nous devons avancer, marcher, pour arriver à la réalisation du projet. Voilà pourquoi on demande à quelqu'un en pleine réalisation d'un projet, et alors ça marche, ça avance. Pour avancer dans la vérité, nous devons la découvrir, l'accepter telle qu'elle nous est donnée dans la Bible et la mettre en pratique. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons vivre par elle et pour elle, sans tordre les Écritures, sans déformer leur enseignement. L'apôtre Jean ajoute, « Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Et c'est en vivant selon la vérité que nous pouvons motiver les autres à vivre par elle. Il y a une grande joie à partager la vérité avec les autres, mais la vérité et non une vérité tordue, pleine de compromis, comme c'est le cas dans de nombreuses églises. Leur enseignement n'est plus la vérité. L'apôtre Jean écrit encore « L'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. » L'apôtre Jean explique que la vérité est éternelle. Si on la met en pratique telle qu'elle est révélée, elle s'ancrera dans le véritable chrétien de façon permanente. C'est une promesse. En mettant en pratique cette seule et unique vérité, l'homme pourra devenir éternel, devenir un être qui ne sera plus physique, mais composé d'esprit comme Dieu. Jean a encore écrit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. On peut savoir si l'on est bien dans la vérité lorsqu'on aime en parole et en action. Les paroles ne suffisent pas. Il nous faut vivre la vérité, la mettre en pratique. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres n'est rien. L'amour sans les œuvres n'est rien. Et la vérité sans les œuvres n'est rien. Il est donc important de connaître la vérité. Il est important de la comprendre. Mais il est important aussi de la mettre en pratique telle qu'elle est révélée dans la Bible. Ce n'est qu'en la mettant en pratique intégralement que nous faisons ce qui est juste, que nous arrivons à ne plus vivre dans le péché. L'apôtre Jean ajoute un élément intéressant. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Celui qui n'observe pas les commandements de Dieu est donc un menteur. Et vous qui m'écoutez, les observez-vous ? Êtes-vous certain que vous observez les commandements de Dieu tels qu'ils figurent dans la Bible et non les dogmes de votre religion ? Connaissez-vous la lettre et l'esprit des commandements ? Si vous voulez recevoir notre étude sur les 10 commandements, écrivez-nous pour l'obtenir et vous serez étonné de ce que vous y découvrirez. L'apôtre Pierre écrit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Il est essentiel, si l'on veut ancrer la vérité en soi, de prendre conscience que la vérité est et reste toujours présente. La plupart des églises traditionnelles n'enseignent qu'une partie de la vérité. Elles rejettent tout ce qui n'est pas conforme à leur doctrine. Elles ne veulent pas enseigner toute la vérité. La loi divine est basée sur 10 points fondamentaux, 10 commandements qui se résument par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme », ce qui signifie de tout ton être, puisque l'homme n'a pas une âme, mais il est une âme, « de toute ta pensée », et Jésus ajoute « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La loi est expliquée en détail dans la Bible, mais sa base demeure toujours là. La Bible nous apprend que nous ne devons pas mentir, nous ne devons pas tuer, nous ne devons pas convoiter, nous prosterner devant des idoles, etc. Certains croient que Paul n'enseigne pas ses principes fondamentaux, qu'il ne s'est pas soucié des fêtes annuelles de l'Éternel qui, cependant, font partie de la vérité présente. Si vous voulez mettre en pratique toute la vérité, vous serez béni. En mettant en pratique la vérité dans votre vie, vous apprendrez des choses que vous n'auriez jamais apprises autrement. Et, rapidement, vous comprendrez pourquoi Dieu a voulu que vous mettiez en pratique sa vérité. La vérité doit être observée. Il faut s'y soumettre, s'y conformer. L'apôtre Pierre écrit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La vérité doit être observée et non ignorée. Voyons ce que l'apôtre Paul écrit. « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il est donc important d'obéir à la vérité. » Cette influence qui empêche les hommes de se soumettre à la vérité ne vient pas d'un esprit inconverti, elle n'émane surtout pas de Dieu qui appelle à la vérité, elle émane de Satan. L'apôtre Paul explique la raison d'être des véritables ministres de Dieu, de ceux qui enseignent toute la vérité et non des ministres de Satan, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Il s'agit ici de ceux qui n'enseignent pas toute la vérité, encourageant ainsi peut-être sans le savoir les gens à vivre dans la transgression de la loi, dans le péché, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Professer la vérité dans la charité, cela ne peut se faire qu'en marchant soi-même dans la vérité, en lui obéissant jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. Il faut donc identifier les erreurs pour les rejeter. Comment remplacer l'erreur par la vérité? L'apôtre Paul parle de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La vérité n'est pas le but de leur vie. Ils se sont laissés emporter à tout vent de doctrine. Est-ce votre cas? Avez-vous vérifié la véracité de vos croyances? La vérité est-elle importante pour vous ou est-elle secondaire? L'apôtre Paul a écrit « La charité, l'amour, ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Lorsqu'on découvre la vérité, on s'en réjouit et on se réjouit en elle. » L'apôtre Jacques a écrit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, tout excès de méchanceté, recevez avec douceur, avec humilité, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La vérité reflète le caractère de Dieu. C'est pourquoi le prophète Zacharie a écrit « Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Aimez la vérité et la paix. La loi de Dieu est la véritable instruction. Elle est la vérité. Elle définit la conduite convenable. Si l'homme décide de se laisser conduire par Dieu, par sa parole qui est la vérité, il marchera alors dans la vérité, selon la vérité. » Après avoir cité Jean, Pierre, Paul, Jacques et Zacharie, passons à Moïse, à qui son beau-père donna le conseil suivant. « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, et établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. » Il est question dans ce passage d'hommes intègres, et ce mot est traduit de « émet », signifiant « sûr, fiable, de vérité ». Celui qui marche selon la vérité, celui qui a en lui l'amour de la vérité est un être sûr, un être fiable qui veut faire la volonté de Dieu en toute chose et pour toute chose. Êtes-vous parmi ceux-là ?